I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Le titre québécois, c'est Clanche.
Il faut en parler de ça.
Et tu te rappelles, il y a la chanson à la fin, là.
Speed.
Speed, give me what I need. En effet, Clanche, donne-moi ce que je te demande. Il a fait du truc.
Chanson de Billy Idol.
Oui, c'est ça. C'est Billy Idol. Clinch, donne-moi ce que je te demande. Yeah, yeah, yeah.
Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis avec Julien Dupuis.
Bonjour Stéphane.
Qui attendait que je faute, salut Julien.
Mais oui, bien sûr, je l'ai attendu et je ne l'ai pas eu.
Et nous allons parler...
De Speed.
Le plus grand film québécois.
Ouais, de la planète. Clanche.
Clanche.
En québécois. Alors, on lance un appel avant de pitcher le film, avant tout ça, etc., etc., à nos auditeurs québécois. Qu'est-ce que ça veut dire, les gars?
Parce que c'est nous, clair.
Voilà, on sait pas.
Expliquez-nous.
Voilà. Alors, on parle pas de Speed 2 encore, parce que bon, voilà, faut pas déconner, hein, mais Speed 2, le titre est encore plus hallucinant, c'est « Ça va clencher
». C'est génial.
Et, bon, on peut pas se foutre de leur gueule, en fait, en même temps, parce que nous, on a « Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?» ou « Le président ?»
Non, mais c'est ça, c'est clair, bien sûr.
Donc voilà, mais on n'est pas forcément mieux lotis en termes de... «
Ça va clencher ».
Ouais,
mais ça va clencher. Ça fait plus un truc du genre « On va vous ambiancer
ouais, ».
Parce qu'il convient à Speed 2
danse bien.
Qui danse bien.
Danse pied tendre. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire,
non,
tu vois.
Bref.
Ça doit être appuyé sur le turbo, j'en sais rien,
j'en
quelque chose
rien.
Comme ça. Enfin, en tout cas, le truc, c'est qu'on apprend ce terme-là en ayant Speed en tête, tu
ouais,
vois.
Ouais, c'est clair.
Donc, Speed, un film qui est censé ne jamais s'arrêter, quoi, tu vois. Peut-être que c'est un terme spécifique qui veut dire le bus ne doit pas descendre
éclairez-nous
en dessous.
Éclairez-nous,
non,
les
bus,
amis.
Clanche, ça veut dire en québécois le bus ne doit pas descendre en dessous des 80 km.
Alors, c'est une langue très efficace.
Voilà, c'est ça, tu vois. Et il résume ça en un seul mot, quoi, tu vois. Bref. Donc, Julien.
Ouais.
Speed.
Stéphane.
Oui.
De Yann de Bont.
Oui.
On peut clairement arguer
oui.
que c'est le seul bon film de Yann de Bont.
De Bont, ouais,
ouais,
ouais, ouais,
même bon. Si moi j'ai
on a un petit fait pour hantise, non?
Voilà, parce que c'est vrai qu'on avait bien rigolé, quoi.
Bah oui, c'est voilà. Clair.
Mais, et puis c'est quand même aussi un film où il y a énormément de production design, de trucs
ah ouais,
comme
ça. Hantise, c'est magnifique. C'est, voilà. Il faudra qu'on en parle un jour, mais peut-être dans une émission parallèle.
Dans une autre, ouais, exactement, tu vois. Et film qui est sorti en 1994,
ouais.
Qui a été ce qu'on appelle en fait un sleeper hit, c'est-à-dire vraiment un carton.
Oh, c'était un bon budget quand même à la base, mais ça a ça
25 millions, c'était pas si énorme que ça.
Mais hein. Ça a cartonné bien au-delà de ce qu'ils espéraient.
Voilà.
Effectivement.
Et le studio ne savait pas du tout qu'ils avaient en fait ce succès entre les mains à ce point-là, quoi.
Bah, ce qui était évident, c'est que le film était sorti d'ailleurs en août en France, hein, et en général, les gros tentpoles, comme ils disent, c'est-à-dire les gros blockbusters sortaient en France, aux États-Unis donc entre juin, on va dire, et juillet. Et en France, c'était réservé en octobre. Les films qui sortent en août.
Septembre-octobre.
Donc, les films qui sortent en août, c'était plutôt un truc.
Bon, alors, 94, voilà. C'était quand même une grosse année hein, en termes de blockbuster parce que t'avais Forrest Gump au même moment, mm-hmm. T'avais True Lies, t'avais aussi. T'avais un autre film, il y avait L'Expert avec Stallone, en fait, tous ces trucs-là, en fait, qui étaient des très gros films.
C'est de la merde.
C'est de la merde, mais c'était des gros
bien,
films.
Toi,
non, mais c'est. Non, j'aime bien. Je l'ai revu,
c'est pas terrible.
J'aime bien parce que c'est Louis Loza.
T'aimes bien parce qu'il y a la scène de la douche.
Non, mais tu peux pas dire. Tu parles, c'est la pire. C'est la pire scène de cul.
Bon,
tu sens que les mecs s'aiment pas du tout.
Bon,
tu vois,
mais
c'est pas seulement ça, c'est qu'on sait très bien pourquoi j'aime bien. C'est Louis Loza.
Oui.
Voilà,
c'est
tout.
Quoi,
tu vois. Bon, d'Anaconda, donc.
Mais
donc,
c'était pas la peine de le préciser, les gens avaient déjà.
Les gens le savent, tu vois.
Avaient compensé.
Puisqu'après tout, il a eu la Palme d'Or et l'Oscar. Donc,
exactement.
Tu vas nous pitcher Speed.
Oh non, putain.
Parce que quand même,
c'est
assez facile, hein, faut pas déconner, tu vois. Là, pour le coup, c'est simple. Hein. Même Arnaud Bordas, il te le fera en une minute.
Oh putain, c'est... Bah, en fait, c'est pas si facile parce que t'as un concept de base qui a été étoffé derrière. Mais le concept de base, c'est... Il y a un bus qui il y a une bombe à bord, une bus à Los Angeles, quoi, avec évidemment des passagers et tout. Le bus, s'il descend en fait de, alors c'est
80 km/h. 50 miles.
Donc c'est 50 miles, c'est ça, c'est ce que je cherchais. 50 miles. S'il descend dessous, la bombe explose. S'il y a un passager qui descend du bus, la bombe explose. Et il y a un flic un petit peu tête brûlée qui est joué donc par Keanu Reeves qui va devoir monter à bord et essayer de sauver ces gens, en tout cas de les maintenir en vie le plus longtemps possible. Ça, c'est le pitch de base, mais il est enrobé avec une scène d'action, notamment au début, une scène d'action à la fin.
Trois actes, en fait.
Peut-être qu'on devrait commencer par ça, parce que le scénario de Graham Yost, à la base, vient en fait de lui quand il a regardé Runaway Train, qui est un excellent film qu'on devrait aussi, dont on devrait parler dans Stéroïdes. Et lui, il était persuadé, il s'était mis en tête en fait qu'il y avait une bombe à bord du train. Alors, je sais pas comment il a. Et il s'est dit, mais il y a un truc à exploiter là. En fait, c'est à partir de là qu'il avait commencé à développer l'idée de.
Pour lui, c'était un film étranger en fait. C'est la canon réalisée par un russe.
et donc, non, mais du coup, il s'est dit, bon, réécrivons à Caracol, ça va, parce que c'est un scénario de Caracol, ça va. Il dit, mais je vais le faire mieux. Et donc, il s'est dit, bon, il y a un truc à exploiter dans un film d'action, sans quoi il avait totalement raison. Hein. C'est une idée hyper simple, hein, Speed, mais qui fonctionne, qui est hyper efficace. Et je trouve assez imparable. Il a écrit le scénario comme ça, qui n'était donc centré que sur le bus. Et c'est la Fox, en fait, qui lui a dit, c'est pas suffisant, c'est trop high concept. C'est-à-dire qu'on aime bien les high concept, mais là, c'est trop high concept. Il faut que tu nous fasses une scène avant et une scène après d'action. Sinon, les gens auront l'impression qu'on les a floués, en fait, qu'il n'y a pas assez de choses. Et c'est là, en fait, c'est la première grosse phase de réécriture du film. Il y en aura d'autres. Mais la première phase de réécriture du film où il va imaginer la scène d'ouverture et la scène de conclusion où, en gros, l'antagoniste qui est joué par Dennis Hopper... Est-ce qu'on spoil tout de suite, les gars? On spoil tout de suite. Arrêtez tout de suite si vous n'avez pas vu Speed. Allez le voir, c'est vraiment cool et vous reviendrez nous écouter derrière. Mais le truc, c'est que donc il y a c'est un personnage de flic à la retraite frustré qui estime qu'il n'a pas été rétribué à la hauteur de ses services par l'État, qui en fait décide de prendre en otage d'abord un ascenseur. Son plan est mis à mal en fait par le personnage de Keanu Reeves. Et du coup, il refait le coup avec un bus tout en prévenant le personnage de Keanu Reeves. Et le conflit, on va dire, se résout dans la troisième scène d'action qui se passe, pour le coup, dans le métro
de Los Angeles.
C'est quand même
assez récent à l'époque.
C'est tout neuf, mais c'est assez ironique de se dire que t'as un film quand même sur les transports en commun à Los Angeles, alors que c'est la ville moderne qui a le moins de transports en commun.
Un des trucs qui est intéressant, je pense, dans le concept, justement, c'est que, en fait, à Los Angeles, l'idée qu'un bus ne puisse pas descendre en dessous de 80 km/h, alors qu'en fait, c'est la ville.
Avec des embouteillages et tout.
Autoroute. Ouais. Par excellence et donc effectivement gorgé d'embouteillage, c'est quand même très connu, hein. Ils ont ce qu'ils appellent assez régulièrement, je crois, le Carmageddon, enfin un truc comme ça, où ils redoutent en fait des vrais moments en fait de frustration. Et d'ailleurs, à l'époque, en fait, il y avait d'autres films, hein, qui parlaient de ça. Il y a par exemple au tout début de Chute Libre, hein,
on avait fait
un épisode avec Arnaud. Ouais. À la mort de Joël Schumacher, mais en fait, ça parlait de ça, ça parlait de la frustration, en fait, de passer son temps dans la bagnole, de passer enfin, tout ça. Enfin, il n'y a pas que ça, mais évidemment, ça faisait partie de la logique et ça s'ouvrait là-dessus. Et donc, en fait, c'est excitant parce que d'un seul coup, tu te dis, mais il y a potentiellement, en fait, 30 000 obstacles sur ce parcours-là, et comment ils vont s'en sortir. Parce que
ça te parle tout de suite, en fait, c'est ça qui est cool.
Quand tu fais un concept comme ça, d'avoir de la mise en scène, en fait, t'es obligé en fait de te poser des questions. Et ce qui est assez intéressant, en fait, je trouve, dans Speed, c'est que c'est un film en trois actes, en fait, en l'occurrence. Là, vraiment, ces trois scènes d'action sont trois actes
très
bien spécifiques, bien précis,
avec très 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 peu d'exposition, du coup.
Une évolution de personnage pas très développée, mais par contre, en fait,
mais qui... réelle en même temps.
Voilà, parce qu'elle fonctionne sur, et moi je trouve en fait notamment sur le relationnel entre Keanu Reeves et Sandra Bullock. Qui est assez, c'est ce qu'il y a de mieux dans le film en termes de relations humaines, tu vois, parce que bon, il y a plein d'autres problèmes à côté, on va dire, et des problèmes d'écriture, peut-être aussi des problèmes d'époque, on va dire, c'est-à-dire
crevons l'abcès tout de suite, en fait, parce qu'on est sur le scénario, non? Qu'est-ce que t'en penses? En fait, le truc, c'est que Graham Yost a développé le scénar, etc. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'était très, très peu de temps, en fait, a priori, avant le premier jour de tournage. Alors, ça varie selon les témoignages, mais entre une semaine et 10 jours, il y a eu besoin de réécriture, notamment pour les dialogues, et plus spécifiquement, en fait, c'est venu de Keanu Reeves, en fait, qui lui trouvait que son personnage n'était pas assez humain, qui manquait en fait un peu de profondeur, qu'il était trop héros d'action un peu monolithique. Et Speed, c'est d'ailleurs là-dessus, je trouve que c'est le plus un Die Hard exploitation, en fait, le film, c'est que présente un personnage, essaye de présenter un personnage qui est relativement quand même humain, c'est-à-dire qu'il est faillible. Moi, il y a un truc que j'aime bien, en fait, au niveau de l'écriture, qui est un moment où il craque, il est à bord du bus et il dit non, c'est on va tous mourir, on va tous crever, et tu te dis mais c'est le dernier truc que ce mec doit faire. Je veux dire, c'est le flic, c'est le référent, c'est le pilier sur lequel tous ses passagers, tous ses otages sont en train de s'appuyer, et le mec il craque face à eux. C'est assez étonnant d'ailleurs. Je trouve que le seul problème que j'aurais avec ce moment d'écriture d'ailleurs serait que ce film ne m'a pas forcément préparé à avoir ça, en fait, ce moment d'humanité tout à... Et en même temps, moi je l'aime bien parce qu'elle sonne juste, parce qu'elle est jouée par Keanu Reeves, et on l'a beaucoup moqué, notamment à l'époque, et moi je suis pas le dernier, parce qu'il sonne un peu faux toujours, Keanu Reeves, et
il a un balai dans le cul,
et, et voilà. Et en même temps, il y a un truc que moi j'ai apprécié sur le tard, qui est en fait je sais pas, ce mec, il a une... Je vais pas tomber dans les travers de
d'internet,
de tout la Keanu Reeves mania dont on a abreuvé aujourd'hui.
Your breathtaking.
Mais en même temps, je trouve qu'il a une humanité en lui qui pallie tous ses manques de comédien. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète, moi. Il y a un truc chez ce mec, tu peux pas t'empêcher, t'as l'impression qu'il est bon, en fait. Et c'est peut-être pas forcément le cas. A priori, c'est le cas, mais c'est peut-être pas forcément le cas si tu creuses et tout, mais il a ça. Et du coup, ce moment-là, je trouve qu'il, ça l'étoffe, en fait, là-dedans, ça le densifie.
Alors, si t'écoutes Internet, c'est censé être le cas, mais c'est censé être Jésus réincarné, le mec, ouais, quoi, tu vois, ce qui est un peu, comment dire,
un peu poussif,
caisse de résonance Internet, genre, fait des caisses, quoi, justement. Mais après, effectivement, il a une aura assez sympathique. Je pense que c'est quelqu'un qui aussi a souvent fait des erreurs dans sa carrière énorme,
oh oui, c'est
clair, et est revenu avec des films alors qu'on s'y attendait pas,
improbable.
Matrix en premier lieu, tu vois, John Wick ensuite, ce genre de choses. À un moment donné, on le voilà, et qui s'intéresse vraiment à plein de trucs en fait différents. Alors, récemment dans Cyberpunk 2077, quoi, justement, c'est-à-dire que il a, et c'est un vrai rôle, rôle étoffé,
et qui pour le coup, c'est une constante, hein, voilà. Ça vient directement de Johnny Mnemonic et tout, quoi,
et voilà, c'est
clair.
Ça, et de Matrix, de l'amour du cyberpunk, et de l'idée, en fait, de s'intéresser justement à des concepts philosophiques, à des concepts comme ça de vie.
Little Buddha,
voilà, qu'il incarne, en fait, au final. Alors, il a un côté effectivement très, entre guillemets, moderne et très conscient de lui-même, parce que c'est le problème, je pense, de Keanu Reeves, c'est qu'en fait, dans son jeu, c'est quelqu'un qui a beaucoup conscience de comment il joue, et du coup, ça se sent, quoi, tu vois, c'est-à-dire que c'est son côté balai dans le cul. Quand tu arrives à le détourner, comme dans Matrix, tu vois, justement, où bah, tu l'habilles en curé, quoi, en gros, et voilà, enfin, ça fonctionne, quoi, tu lui donnes finalement très peu de lignes de dialogue. Dans Speed, ça fonctionne aussi parce que aussi il est dans l'action tout le temps. C'est-à-dire que le principe du film même le pousse à être dans l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que le seul truc qui peut vraiment le définir quand tu regardes le personnage, c'est que c'est un membre d'une SWAT team ou je sais pas quoi, ce qui est quand même très léger.
Ouais, c'est
et
clair.
En fait, c'est peu, quoi, tu vois. Et il a peut-être éventuellement un relationnel avec Jeff Daniels qui est bon, et ils sont potes, c'est plutôt sympa, ils arrivent à se parler, tu vois. Pareil avec Sandra Bullock au final, au fur et à mesure du film, mais ces personnages n'existeraient pas. Ce serait compliqué quand même, si tu veux, de tracer vraiment un portrait du bonhomme. Si ce n'est que c'est un mec qui agit tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui est hyperactif et qui finalement ressemble à un héros d'action américain de base, en fait. C'est-à-dire que c'est toute la problématique, en fait, qui était posée dans Last Action Hero, qui est sorti un an avant. McTiernan posait cette question, en fait. Est-ce qu'on peut être un héros d'action sans forcément agir, en fait, sans forcément être le mal alpha qu'on te demande d'être, etc. Bah là, eux, ils oublient ça, ils se posent même pas la question, ils vont à fond dedans. Donc finalement, tout est défini par le reste des personnages, tout est défini par ce qui se passe, en fait, les péripéties qu'ils doivent surmonter. Et effectivement, ce moment dont tu parles où il craque, qui est quand même un moment très spécifique en plus, puisque il juste, enfin, on spoil, hein, mais il perd son ami, tu vois, donc il perd un référent, quoi. Il tombe finalement à point nommé, moi, je trouve, quoi.
Ouais.
Maintenant, alors, bon, on a beaucoup parlé de ça, mais c'est pas un film de personnage, hein, en toute honnêteté.
Non, mais justement, voilà. On était encore sur le scénario, justement, aussi, c'est le truc. Et c'est Joss Whedon, en fait, qui viendra, qui ne sera pas crédité. Il en voudra beaucoup, beaucoup à la Writer Guild of America, là, qui est donc
le syndicat, en fait,
le syndicat des scénaristes, ouais, qui gère notamment les crédits
et qui, en fait, dans les films de studio tu dois être membre, en fait, c'est obligatoire, en fait, sinon tu travailles pas vraiment à Hollywood et dans le cadre des studios si c'est pas le cas. Donc c'est On peut, en fait, parce que bon, enfin, c'est quand même compliqué aux États-Unis, les couvertures sociales, ce genre de choses, etc., etc. Mmh. Donc, en fait, c'est presque normal, on va dire, d'avoir un syndicat qui gère ça.
Bien sûr.
Ça s'appelle un syndicat. Maintenant, il y a quand même des logiques un peu, comment dire, de étranges, en fait, pas de mafia, j'ai envie de dire, parce que c'est, ça reste la Writers Guild, en fait, dans, on va dire, dans. Mais dans les logiques de syndicats,
bien sûr, mais
il y a
si,
beaucoup
ça,
de,
ça
de
relève
trucs.
De ça.
Bah, ça relève de ça sur et des sur des vrais métiers à risque et compliqués en fait qui sont peu couverts, tu vois. On sait quelle est la relation par exemple avec des Jimmy Hoffa sur ces trucs-là. Mmh. Mais ce que je veux dire en fait, si tu veux, c'est que sur la Writers Guild, surtout le principe, c'est que ils demandent en fait aux scénaristes, à d'autres scénaristes qui sont pas du tout dans le, comment dire, dans le
dans
projet,
le film,
dans le projet, et qui n'ont aucun, comment dire, conflit d'intérêt, de faire une review en fait des scénarios, des différentes versions, et d'attribuer un pourcentage en fait de ce qu'a fait chaque scénariste. Et en l'occurrence, pour être crédité, il faut avoir réécrit 50% du film. C'est pas sûr que Joss Whedon ait réécrit 50% du film.
Bah si, en fait, parce que même c'est ça en fait qui est aberrant en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors à l'époque, Joss Whedon c'était un peu le script doctor, le peut-être le plus prisé. Enfin, tu le voyais partout. Il était sur
Toy Story,
Mort ou vif, dont tu avais déjà parlé auparavant. Enfin voilà, je veux dire, dès qu'on avait un petit problème de scénar, etc. Il est le mec.
Connu pour débloquer ça en une journée.
Ouais,
quoi,
pour aller très très vite, effectivement. Et là, en fait, ce qui est partagé sur Speed, c'est que même Graham Yost en fait dit il a beaucoup retravaillé en fait mon scénario, et c'est très bien ce qu'il a fait. C'est ça qui est marrant. Alors Joss Whedon, lui, il assume complètement le film. Il dit bon, il y a des trucs que moi j'aurais voulu virer, ils m'ont pas laissé virer. Je sais qu'il déteste, par exemple, le pop quiz, hein, qui vient pas de lui du tout, quoi. Mm. Qui est donc un jeu de dialogue en fait entre le méchant, donc
question-réponse.
C'est interrogatoire surprise, je crois. C'était en VF, un truc comme ça. Mais voilà, un jeu de dialogue comme ça entre le méchant et les deux personnages de gentil, notamment King Reeves, jusqu'à la fin en fait. Mais par contre, voilà, et donc il ne sera pas crédité, il leur en voudra beaucoup. Alors, moi, j'ai pas lu en fait les différentes versions
moi
de Speed.
Plus.
Je ne sais même pas si elles sont complètement disponibles, si on peut les trouver quelque part. Mais donc, apparemment, c'est principalement donc le personnage de Keanu Reeves et en partie aussi les dialogues et le personnage de Dennis Hopper. En fait, c'est surtout là-dessus
alors,
en fait qu'il est. Voilà.
Bon.
Et c'est là en fait où le bas blesse pour Stéphane.
Alors le bas blesse déjà sur Dennis Hopper, parce que Dennis Hopper qui est un acteur excellent à la base, hein, qui est vraiment quelqu'un qui peut dégager une certaine aura dangereuse, hein, je pense notamment par exemple
Blue Velvet,
voilà.
Là, c'est là où vraiment on s'est dit putain, il peut, c'est le méchant ultime.
Ah ouais, il est machiavélique, quoi. C'est papa, quoi, tu vois, c'est tonton là dans le film, quoi. Il se fait pas trop chier. Hein, toute honnêteté.
Non, c'est sûr.
Et c'est pas parce qu'il y a une scène d'ouverture où il tue un gars avec un tournevis qui lui plante un tournevis dans le crâne, tu vois, que ça en fait vraiment quelqu'un d'extrêmement menaçant, surtout face, encore une fois, à quelqu'un comme Keanu Reeves, qui était en fait en pleine possession de ses moyens physiques. À l'époque, il avait 30 balais, il était super caisse, comme tu l'avais pas vu dans, comment t'appelles ça, dans Point Break, tu vois. Donc voilà, Dennis Hopper, pour moi, c'est un problème dans le film. C'est-à-dire, c'est vraiment pas quelqu'un. Quand tu regardes Die Hard ou Die Hard 3, tu vois, les méchants, en fait, ils sont extrêmement bien écrits, ils sont extrêmement bien incarnés, quoi. Et là, c'est vraiment. On joue même pas sur le côté du prolo, en fait, si tu veux, qui en veut
justement
au système, en fait. C'est un des trucs, en fait, où.
Tu joues un petit peu, comme je suis pas. Alors, voilà, moi, c'est la nuance, en fait, que j'allais apporter. Je suis plutôt d'accord avec toi, mais il y a ça, quand même, en fait. C'est-à-dire que il est chez lui, il s'ouvre une bière, il regarde un match de foot tout en faisant son truc, et à un moment aussi, il le dédramatise, en fait, ce héros. À un moment, en fait, il est absent, il y a tout un switch, en fait, de caméra, en fait, à bord, en fait, du bus, vraiment, on vous spoil tout. Et en fait, ils arrivent à le duper en fait, parce qu'il va faire pipi en fait. Il te montre en train de sortir avec la chasse d'eau et tout qui est tirée. Moi je pense, là pour le coup j'ai pas vu d'entretien en fait de l'équipe là-dessus, mais je pense qu'il y avait cette volonté justement de pas te faire un grand être, et même ses motifs en fait sont extrêmement basiques et prolétaires en fait, et je pense qu'il y avait une volonté finalement de faire une espèce de monsieur tout le monde qui vrille un peu, quoi, en fait, et de pas faire un grand maître du crime comme le sont les frères Grover, par exemple, quoi.
Sauf que Dennis Hopper c'est pas monsieur tout le monde non plus, et en fait l'autre truc c'est que moi j'ai tendance à dire qu'il y a enfin, il avait déjà 60 balais, je pense, à l'époque, facile. Mm. Et bon, quand tu dois faire un combat à la fin entre lui et Keanu Reeves, ça marche pas, en fait. Tu crois pas une seconde. Quand il menace, même quand il menace Sandra Bullock, ça marche pas. En fait, c'est-à-dire que.
Mais ça, ça va plus. Mais c'est vrai que le combat sur le toit du métro ne fonctionne pas.
Mais bon, il balance des trucs du genre, mais bon, t'es une gonzesse, donc je sais que tu comprends pas, tu vois. Mm. Mais tu sais, des trucs comme ça où tu te dis, bon, qu'est-ce que, tu vois. Enfin, voilà. Moi, je trouve que Dennis Hopper, c'est un problème dans le film.
Mais après, il meurt de façon bien crade, donc ça va, il est décapité. Ouais,
c'est rigolo, ça, c'est mais marrant, tu vois, la punchline, elle est nulle. Hein. Tu vois
là
moi, la punchline, j'ai toujours trouvé nulle. Hein. Quand le mec, il lui dit, je suis plus fort que toi, je suis plus fort, et tu dis, ouais, mais je suis plus grand, tu vois, ou je sais pas quoi, parce que t'as une tête en moins, tu dis, merci, Joss Whedon. Tu vois, merci, la punchline de merde. Donc, voilà, ça, c'est pas terrible. Et pourtant, il faut quand même reconnaître un truc, en fait, sur les punchlines de Speed, c'est qu'elles sont extrêmement pratiques pour vendre la bande-annonce. Parce que, alors, moi, je me rappelle du market où les mecs, ils t'expliquaient le concept de Speed dans une bande-annonce hyper efficace, tu vois, avec les quatre phrases, tu vois, de soit de Jeff Daniels, soit de Keanu Reeves, soit de Dennis Hopper, et ça marchait super bien. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, le film était super bien vendu, et je pense que c'est une des raisons du carton, d'ailleurs, du film, c'est que les bandes-annonces étaient extraordinairement efficaces. Quoi. Mm. Tout de suite, tu voyais ça, tu te disais, ah, putain, mais j'ai envie de le voir. Mm. Parce que jusque-là, tu savais que c'était Die Hard dans un bus, tu fais, ouais, bon, bah ça va, tu vois. Et en fait, non, tu te disais, ah non, il y a un truc, en fait, dans ce film qui est plus que Die Hard dans un bus. Quoi. Mm. Et donc, ça, c'était un des trucs. Mais après, moi, je pense surtout dans l'écriture, en fait, ce que j'aime pas moi personnellement dans l'écriture du film, c'est limite en fait Speed presque, tu vois, c'est tellement les concepts que tu pourrais te dire ça pourrait presque être un film muet presque, tu vois, c'est-à-dire évidemment avec du son, évidemment avec tout ça, mais en fait des dialogues mais à la limite de la limite, c'est-à-dire vraiment en fait dégraissé complet. Et c'est bon, c'est pas toujours le cas. Parce que en
fait, pas loin quand même, Steph. Hein.
Mais c'est surtout que t'as des écritures de perso qui sont pas possibles, tu vois. C'est-à-dire que moi, tous les passagers du bus, déjà outre le United Colors of Benetton du truc, tu vois, en fait, tu as le melting pot à l'américaine qu'on essaye de te caser dans un seul bus en fait à Los Angeles, tu vois.
Oui, t'as... mais c'est aussi parce que alors là-dessus, je t'interromps un peu aussi. Tu peux le voir comme ça, mais c'est aussi un film sur Los Angeles, hein, Speed. Hein. Moi, je le vois clairement là comme ça. Et c'est un des trucs que j'aime bien dans le film. Et je pense aussi qu'il y a cette volonté en fait dans le bus. De te prendre un peu tous les archétypes en fait que tu peux voir à Los Angeles, donc moi ça me gêne pas tant que ça en fait.
Mais ça,
je vois pas comme un truc politiquement correct en fait, je vois comme une espèce de microcosme de cette
surtout
ville,
c'est surtout qu'en fait si tu veux enfin moi j'ai du mal à comprendre l'écriture des persos, c'est-à-dire que le touriste là qui essaye de draguer Sandra Bullock, tu vois,
ouais, ça va, tu sais ce que c'était en fait, ça effectivement c'est un personnage de Joss Whedon dans le scénario de Graham Yost, je trouve que c'est bien pire en fait, c'était un avocat très véhément en fait, et alors là c'est pareil, tu sens le Die Hard mais alors à fond, quoi, tu vois,
mais de toute façon c'est une influence,
et très véhément, une vraie ordure en fait jusqu'au bout, et c'est Whedon qui a dit non mais on va pas faire ça, on va faire un mec un peu plus fragile, etc. Et c'est lui qui a eu l'idée en fait, donc du provincial qui arrive sur la grande ville. Moi je trouve que ça va, ça passe, quoi. Je vais pas te dire que je sauve le film pour ça, c'est évident, mais je trouve que ça fait le taf, et je trouve que notamment, tu vois, il y a quand même une efficacité chez Whedon qu'il faut lui reconnaître. Alors après, faut voir aussi ce qu'il sacrifie pour cette efficacité, et c'est là où je te rejoins. Mais par exemple, dans l'efficacité, c'est la gag sur l'aéroport, par exemple, où tu te dis, ah oui, donc, enfin, tu comprends. Moi, je comprends un peu le perso, en fait, à ce moment-là, quoi. Ouais. Donc voilà.
Mais bon, moi, il n'y a pas que lui, hein, tu vois. Il y a la nana qui passe sous le bus, tu vois, qui est proprement insupportable, tu vois.
Ouais, mais enfin, c'est son rôle.
Ah oui, mais bon, tu vois, enfin, et puis surtout, tu te dis, quasiment pas de cohérence psychologique, je trouve, là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand je vois cette scène arriver, le premier truc que je me dis, c'est, je me dis, en fait, elle est pas tombée dans une trouille, tu vois. Et proprement insupportable. Et
ah
en fait,
ouais.
Ah ouais, ouais. Et en fait, on aurait totalement pu éviter le truc. Et la scène est d'ailleurs assez mal foutue, en fait, en vrai. Parce que quand
oui,
tu fais attention à cette scène-là, tu vois,
clair,
c'est assez mal monté.
Ouais, c'est pas
ce qui est quand même pas le cas du film à la base.
Non,
le film est super
sûr.
Bien monté.
Ouais, ouais.
Enfin, il y a des espèces de ralentis pourris. Enfin, tu vois, il y a un truc, en fait, à un moment donné où tu te dis, OK, l'explosion, tu sens que, en fait, ils se sont dit, bon, il y a une explosion, mais est-ce qu'on voit vraiment que c'est une explosion parce qu'on
non,
peut pas faire sauter le bus, tu vois.
T'as l'impression, c'est un des très rares, parce qu'on va revenir aussi, mais c'est un des très rares moments, je suis tout à fait d'accord là-dessus sur la réal. C'est un des très rares moments tu te dis ils ont pas réussi à faire ce qu'ils devaient faire parce que c'est trop compliqué en fait. Et or c'est un film où jamais sinon en dehors de ça tu te dis putain ça a dû être un enfer à tourner, ça passe vraiment. Après quand tu réfléchis tu te dis oh mais l'horreur quoi,
non,
je sais même pas comment ils ont filmé un truc pareil, mais sur cette scène là en fait c'est vraiment le truc où tu te dis ouais là ils ont pas réussi,
mais de toute façon Speed est vraiment le meilleur de Speed pour moi, c'est vraiment quand le film ne s'arrête pas,
ouais,
c'est à dire c'est la logique de dire t'as pas le temps toi de réfléchir sur la simple idée que évidemment en fait qu'ils vont pas percuter un landau, évidemment qu'il n'y a pas de bébé dedans. Mmh. C'est-à-dire que t'es au volant avec Sandra Bullock et tu dis putain, ils ont percuté un bébé, tu vois, pendant une seconde. Et ouais. En fait, c'est ton cerveau reptilien qui est pris en compte et il te dit, et tu fais ça, et d'un seul coup, tu vois, ah, c'est ça l'explication. Mais sauf qu'en fait, la nouvelle péripétie arrive derrière et du coup, voilà. Et ces péripéties-là, c'est des péripéties, si tu fais attention, surtout la toute première partie avant le gap, avant tout ça, avant le saut et tout ça, c'est des péripéties de série télé. C'est-à-dire, en fait, en gros, ils font passer une bagnole, tu sais, qui est sur le pas de l'autoroute, tu vois, ou alors ils cassent des, il faut faire faut vriller, donc mettez-vous du côté du truc. C'est vraiment des petites péripéties, mais par contre, elles s'enchaînent tellement de manières, en fait, si tu veux. Il fait, bon, vous savez quoi?
C'est très
fluide.
De toute
façon, on est obligé de les faire, donc on va les faire, tu vois, mais on y va, tu vois, c'est-à-dire, on les assume, on les fait jusqu'au bout. Et en fait, le film.
Et en plus, avec une belle graduation là-dessus.
Voilà,
je trouve.
Et voilà, c'est ça. Il y a une graduation et il y a un truc qui fait qu'en fait, on ne s'arrête pas. Et au final, ça participe de l'idée que tout le film est exploité. C'est-à-dire, chaque scène est exploitée, si tu veux, jusqu'au bout. C'est-à-dire que la scène du trou, tu dis comment ils vont faire? Bah, ils le font, en fait. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils ne s'arrêtent pas. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, le bus ne peut pas s'arrêter. C'est la logique du film. Mmh. Et si tu acceptais ce concept-là de base, bah, en fait, c'est comme ça que tu t'en sors. Et après, ce que tu disais sur le truc de Los Angeles, c'est très vrai parce que, par exemple, et ça c'était assez nouveau à l'époque, et je pense que ça participe aussi du succès du film, c'est-à-dire le fait que ça soit très contemporain à ce moment-là.
Ouais.
L'idée, en fait, si tu veux, que c'est une ville qui fonctionne avec des hélicoptères, et qui fonctionne donc avec des hélicoptères pour la police qui va surveiller les quartiers, qui fonctionne avec des hélicoptères pour les journaux télévisés, si tu veux, et c'est sorti littéralement aux États-Unis le mois de la poursuite avec O.J. Simpson. Mm. Donc en fait, tu pouvais pas faire plus, dans le ton à ce moment-là, que de montrer ce truc en fait où lui, le personnage de Dennis Hopper, peut voir ce qui se passe dans le bus aussi grâce aux médias. Mm. Et du coup, en fait, jouer sur l'idée que s'il rentre dans un aéroport et qu'en fait dans un aéroport on peut pas filmer au-dessus, etc. Bah là, d'un seul coup, il gagne une certaine avance sur le méchant, quoi. Et ça, c'est des idées, mine de rien, qui sont hyper bien pensées, hyper bien ramenées dans le film et qui sont pas du tout appuyées. Il y a pas un discours sur ce genre de choses. Il y a pas une notion politique de ce que c'est. Tout, en fait, pour moi, tout speed, en fait, fonctionne quand tu acceptes, en fait, que tu dois juste travailler sur ton cerveau reptilien, sur l'aspect reptilien du film. C'est-à-dire, tac, 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 ça s'arrête jamais. Du coup, la scène d'ouverture, elle fonctionne aussi beaucoup sur ça. Tu vois, dès qu'ils se mettent un peu à parler, tu fais ouais, bon. Ça,
puis il faut parler de la première apparition des héros aussi, hein, que moi j'aime beaucoup, en fait.
Parce que
t'as une espèce de bagnole, en fait, qui fait un bond, mais t'as l'impression qu'ils sont en train de tomber du ciel. Et le premier moment, en fait, où tu les vois vraiment qui sortent de la voiture, t'as un mouvement de steadicam circulaire, en fait, autour d'eux, qui ne s'arrête pas, quoi. Et tu les vois qui prennent leur.
Et qui est hyper bien cadré, en fait.
Et qui est super beau, ouais. Bah, alors, il faut présenter Yann Demande, peut-être que les gens ne savent pas qui c'est. C'était un directeur de la photo hollandais à la base, qui a fait vraiment ses armes, on peut le dire, avec Paul Verhoeven, qui est monté aux États-Unis avant Paul Verhoeven. C'est un des facteurs qui a fait que Paul Verhoeven est monté aux États-Unis. Lui, il lui avait dit, viens ici. Et c'est intéressant, en fait, qu'il lui ait dit ça à Paul Verhoeven. Je trouve que ça en dit beaucoup, en fait, sur le personnage de Debond. Il lui a dit, viens ici, t'es très bien payé. Et il y a les meilleurs techniciens de la Terre. Et je trouve que dans Speed, ça se sent, en fait, ça. C'est-à-dire que tu sens que le mec, il a su s'entourer des bons caméramans. Il a su s'entourer, avoir la bonne émulsion de caméra. Il a su, enfin, c'est un film qui, techniquement, est vraiment beau, quoi. C'est très bien fait. Je dis pas beau dans le sens, c'est un film d'esthète, c'est pas du tout le cas, hein.
C'est l'efficacité qui prime d'abord,
avant exactement.
Toute chose, quoi.
Mais la photo est très claire, par exemple. C'est pas un film qui joue dans l'ombre ou quoi que ce soit. Par exemple, dans la cage d'ascenseur, c'est extrêmement éclairé, mais c'est bien éclairé. C'est-à-dire que tu y crois quand même à cette cage d'ascenseur et tu y crois, en fait, à cet éclairage-là.
Tu crois à ça, mais tu crois pas trop aux persos qui sont dedans, je trouve. Moi, c'est-à-dire que ça fait partie des trucs, encore une fois, qui sont un petit peu dans l'écriture. Enfin, tu vois, le connard derrière le truc, tu sais, qui se fout de la gueule du mec devant.
Peut-être.
Après, ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même l'impression, et c'est ça un peu mon problème sur les écritures, juste pour terminer sur ce point, tu vois, j'ai quand même l'impression, en fait, si tu veux, que si tu sors du trio Jeff Daniels, Keanu Reeves et Sandra Bullock,
c'est tout. Qui devait être Hélène Degeneres, il faut, qu'on le dise, parce que c'était aussi.
Mais de toute façon, il y a
une petite anecdote, mais c'est quand même ouf, quoi.
Il y a un jeu de chaises musicales, en fait, dans ce film. On a parlé, et Mark Gordon en parle dans le producteur Mark Gordon en parle dans le commentaire audio. Il dit qu'à la base, en fait, c'était un projet qui a été développé par John McTiernan. Moi, quand j'en ai parlé avec John McTiernan lui-même, m'a dit bon, j'ai pas tant travaillé avec ça. Après, John, il faut savoir qu'il faut dire que
Yann de Bont était aussi directeur de la photo sur Piège de Cristal. C'est très important.
Et Octobre Rouge.
Et Octobre Rouge.
Et en fait, le truc avec McTiernan, c'est qu'il faut savoir que, bon, comme quand il fait pas le film, tu vois. C'est vrai qu'il a tendance à mettre ça de côté et voilà. Et le seul truc en fait qu'il m'a dit sur le film, c'est qu'il m'a dit je sais que Yann de Bont, enfin je peux te dire que Yann de Bont m'a appelé parce qu'il avait un problème avec Keanu Reeves, jeu de Keanu Reeves, et que le jeu de Keanu Reeves était un peu rigide. Et lui dit comment est-ce, enfin toi t'es un directeur d'acteur, moi c'est mon premier film. Comment est-ce que je dois faire, en fait, si tu veux, pour faire en sorte que...
Ça passe.
Voilà. Et McTiernan, qui connaissait le projet, en fait, lui dit, fais-le courir tout le temps. Tout le temps.
Et c'est ce qui fonctionne,
d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il soit épuisé tout le temps et qui fonctionne, effectivement, sur ses instincts, quoi. Et c'est ça, le truc du film, en fait. C'est que c'est un film extrêmement instinctif, en fait, Speed.
Mais moi, il y a aussi un truc aussi, et qui m'étonne beaucoup quand tu vois ce qu'il a fait après Yann de Bont, c'est qu'il y a une... Moi, je trouve qu'il y a quand même une intelligence de la mise en scène, en fait, dans le film. Quand je l'ai revu, là... Alors, je me souvenais qu'elle avait lieu, mais... qui est très il y a plein d'idées en fait de mise en scène qui sont là pour appuyer les trucs. Tu vois, tu parlais de la scène du saut qui est donc le gros morceau en fait du film où en fait il y a une bretelle d'autoroute avec une espèce
qui
de
pas
pont
terminé,
qui n'est pas terminé, le bus doit faire un saut impossible en fait et il décide de le faire, et quand tu le vois en fait au loin en fait ce truc, bon alors, évidemment le gouffre est beaucoup plus étendu que ce qu'ils annoncent et tout dans le truc, mais par exemple t'as des petits oiseaux en fait qui ont été incrustés numériquement dans le trou, et j'ai toujours trouvé que c'était super. C'est une façon en fait de guider ton œil qui est excellente. Il y a une autre idée que j'aime beaucoup, c'est que le personnage de Dennis Hopper, quand il lance en fait ce système avec le bus pour prévenir en fait le personnage de Keanu Reeves, il fait exploser un bus et il l'appelle au téléphone sur un téléphone à proximité en fait de Keanu Reeves.
Une cabine téléphonique.
Et en fait, Yann de Bont avait utilisé un truc qui est super intéressant en fait, c'est que les cabines téléphoniques aux États-Unis à l'époque
elles étaient
presque chromées en fait. Et donc ils s'en servent comme d'un miroir pour refléter les flammes en fait du bus qui sont à côté. Et du coup, tu te dis oui, ce téléphone démoniaque incarne vraiment ce qui se passe. Ça, c'est une vraie idée excellente. Et il y a un dernier truc aussi que j'aime beaucoup. Je vous invite, du coup, quand vous allez revoir le film, parce qu'après ce podcast, vous avez forcément envie de revoir le film, c'est qu'il joue tout le temps aussi sur les écritures. Yann de Bont sur les warnings, il induit toujours un petit sous-texte en fait là-dedans, très souvent en fait dans le film, et c'est extrêmement ludique, même quand tu le revois au bout de plusieurs fois, c'est vraiment agréable, et qui va jusqu'à la découverte des passagers du bus de la bombe en fait. C'est-à-dire que le personnage de Keanu Reeves n'arrive pas à leur dire à l'oral en fait, enfin en tout cas pas au conducteur. Du coup, il l'écrit sur un morceau de papier. Le papier s'envole et va se plaquer en fait sur le pare-brise. Ouais. Et du coup, tous les passagers du bus le voient en même temps. Mais je trouve que ça marche super bien. C'est ça en fait qu'on aime aussi, je crois, dans le cinéma d'action, c'est que c'est des idées visuelles dans le mouvement en fait qui te font comprendre instinctivement une situation de crise à un moment donné, quoi.
Et avec, alors, ce qui est assez marrant là-dedans, c'est que c'est un pur film d'entertainment total. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'est pas un film en fait qui. Et c'est d'ailleurs, je pense, à mon avis. Peut-être le truc qui le distingue d'un Die Hard ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que bon, Die Hard c'est aussi un film d'entertainment hein, total, mais par contre en fait c'est un film qui émotionnellement je pense va plus loin, est plus attachant et qui quand même en sous-texte, tu vois, si tu veux le prendre ou tu le prends pas, tu vois, a un discours sur les gens en fait qui sont dans le film, a un discours sur ce que le terrorisme est censé incarner, a un discours en fait sur le capitalisme, a un discours sur tous ces trucs là qui est représenté, tu vois. Donc le truc c'est que ça, Yann de Bont en fait ne le fait pas, tu vois. Lui pour le coup c'est un pur technicien qui essaye de faire son travail le mieux possible, tu vois,
qui est opérateur caméra aussi la plupart du temps, faut le dire,
voilà, et qui en fait donc plonge vraiment en fait, met les mains dans le cambouis en fait, et c'est peut-être ce qui fait que Speed n'a pas cette aura de, enfin il a une belle aura quand même, mais de grand film d'action. L'aura est teintée par la suite parce que la suite
est
totalement catastrophique. Elle est aussi teintée par la suite de la carrière de Yann de Bont, parce qu'il faut être honnête, Yann de Bont ça a été très très court en tant que réalisateur, ça a été,
il a cartonné avec Twister ensuite,
Speed et Twister, qui est infiniment moins réussi, Twister il faut être honnête, quoi. Speed 2 qui est carrément une catastrophe, enfin littéralement une catastrophe,
c'est horrible,
industrielle,
c'est horrible. C'est marrant parce que quand j'ai revu Speed, je me me suis dit, ouais, c'est super et tout, c'est quand même bien réalisé. Je me suis refait le début, en fait, de Speed 2, qui est une scène d'action aussi, en parallèle avec en Sandra moto, Bullock, ouais, quoi, qui est dans une,
qui repasse le permis.
Auto-école, voilà, qui repasse le permis. Et, lui, et le, et Jason Patrick qui remplace Keanu Reeves. Alors, déjà, ça, c'est aussi un problème, je trouve, mais, et Jason Patrick poursuit un voleur, je crois, avec des cartons. Enfin, tu vois, j'ai déjà oublié, c'est ouf. Mm. Des cartons qui tombent de son camion. Et je me dis, putain, mais le gouffre, quoi, entre les deux,
ouais,
quoi,
puis,
de,
en fait,
de mise en scène.
Et puis,
de,
tout bêtement, un bus qui est censé aller vite, c'est une chose, mais un paquebot
un bateau,
qui est censé aller vite.
Non, cette, bon, idée. Voilà. La scène finale de Speed 2 avait coûté un pognon monstrueux, et c'est vrai que quand tu vois la scène, c'est tout sauf cinématique, en fait. C'est sauf.
Visuel, ouais,
visuel, en fait.
Quoi.
Cinématique, pas du tout, mais visuel, en fait. C'est pas du tout. C'est impressionnant dans un film catastrophe, à la limite, mais dans un film d'action, encore une fois, t'as besoin de mouvement. Et là, c'est tout. T'as pas du tout l'impression de mouvement, voilà, en fait. C'est lourd, pas lourd.
Et après, ce gouffre industriel, parce qu'en fait, le truc, si tu veux, c'est que c'est un film qui a coûté quasiment le prix de Titanic.
Ouais, c'est
parce que ce qu'on ne disait pas, forcément, à l'époque, hein, qui a rapporté, certainement pas ce que Titanic a rapporté, de toute façon. Et puis, certainement pas même ce que le premier Speed a rapporté.
Ouais.
Ça a tué la franchise dans l'œuf. Il y a eu l'idée d'en faire un troisième si Keanu Reeves revenait. Mm. Mais Keanu Reeves lui-même ne voulait pas, en fait, faire la suite. C'est-à-dire qu'il était en train de se dire, moi, je veux pas être un héros d'action. C'est-à-dire, il a remis 5 ans à faire un film d'action derrière. S'il a eu Poursuite quand même, mais qui était plus un thriller à la base, avec une ou deux scènes d'action, et qui
donc, puis lui
avait aussi s'est planté,
et
en
puis
fait,
il avait détesté le scénario, en fait, de Speed 2 aussi.
Ouais. Et ensuite, après Speed 2, bah il y a Antiz, le remake donc de La Maison du Diable,
Tomb Raider 2.
Donc voilà, en fait, c'est ça la carrière de réalisateur d'Ian DeMont, et c'est très honnêtement, comment dire, enfin, ça ne fait que aller de pire en pire, quoi.
Non, Antiz, c'est quand même le top du top.
Non, mais c'est pour dire que finalement, en fait, il avait aussi ce discours, hein, je sais pas si tu te rappelles de ça, et surtout à l'époque de Speed 2, il avait dit, mais moi je suis dans l'action, quoi. Je filme l'action, tu sais, je suis dans l'action, et tu regardes Speed 2, tu fais, mais de quoi tu parles, quoi, tu vois, enfin, c'est...
Mais pourtant, dans le 1, c'est encore une fois, c'est le cas, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est en permanence là-dedans. Et lui, ce qui était marrant, en fait, c'est qu'à l'époque, alors c'est pareil, il faut se remettre dans le contexte, avant Greengrass, par exemple, tu vois, et tout. Mais lui, en fait, Ian DeMont, il disait, je veux une image de type documentaire, pour que les gens se soient vraiment au cœur, en fait, de la situation que je suis en train de dépeindre, mais sans les désagréments du documentaire. Et c'est un autre truc aussi, c'est que quand tu revois Speed aujourd'hui, en ayant en tête, tous les Jason Bourne et tout, tu vois à quel point c'est agréable, en fait. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que la caméra est quasiment jamais statique. Par exemple, il avait fait un truc intéressant, c'est que quand ils étaient à l'intérieur du bus, au lieu d'utiliser des pieds ou de la fixer la caméra sur le bus, qui arrive aussi parfois, il la mettait sur comme des gros élastiques, en fait. Donc la caméra est plutôt statique, mais un petit peu en mouvement, mais pas suffisamment en mouvement pour que ça donne mal au crâne ou que t'aies du mal à suivre le truc, quoi. Donc c'était des trucs comme ça, ou par exemple il avait mis aussi des rails sur le plafond, en fait, du bus. Donc ça veut dire que la caméra, elle a un peu les chocs du bus, les mouvements du bus, mais en même temps t'as des points de raccord visuels très fluides, en fait, dans le mouvement d'appareil. Il y a comme ça une recherche, en fait, d'entre deux. C'est ça, c'était une des forces aussi de Bond, hein. C'est que par exemple sur Die Hard, sur le traveling à la fin et tout, il crée ses propres outils pour bouger sa caméra. Il avait fait ça avec Verhoeven et tout,
et il avait aucun problème, en fait, à faire en sorte que justement il y ait ce qu'on appelle des défauts photographiques, en fait, dans le film. C'est à dire que c'était une des raisons pour lesquelles
il les assume moins dans Speed, je trouve.
Ouais, d'accord, mais parce que je pense que Speed, en fait, et c'est aussi la grosse distinction avec la suite de sa carrière, c'est que, en fait, c'est son seul petit budget,
oui,
tu vois, par rapport au reste. C'est à dire que tous les autres films, c'est des films qui ont coûté très très cher, en rapport au canon de production, quoi. Et qui, comment dire, plus il avait de l'argent, et on va dire moins, je pense, il travaillait sur l'efficacité primale, en fait, de la
mise en scène. Mais je pense aussi qu'il y a un truc, c'est que dans le concept même de Speed, tu peux pas tricher aussi au bout d'un moment. C'est à dire que
Speed 2, il l'a fait.
Je pense que, parce que Speed 2, tu tournes pas de la même façon. C'est à dire que là, t'as un bus qui est à Los Angeles et qui roule tout le temps, et surtout à cette époque-là. Je sais pas si, moi, j'aime pas ce discours d'aujourd'hui, on aurait tout fait sur écran vert. En fait, je suis pas du tout certain que ce soit le cas, mais le truc qui est certain, c'est que à l'époque, en tout cas, il y a déjà pas mal d'effets numériques, hein, d'ailleurs, hein, dans Speed, et qui sont
très... Il y a de la rétroprojection. Enfin, la scène dans le métro,
je me rappelle
que j'avais vu justement un reportage dans le... C'était la première fois que j'entendais parler du projet, dans le journal du cinéma, où il y avait des images de ce tournage-là. Ils montraient un peu du bus et du saut, mais ils montraient surtout le truc, et je m'étais vraiment fait la réflexion, je me suis dit, mais ça va pas marcher, en fait. Le truc de...
La rétroprojection.
À l'écran, à la façon dont c'était filmé, tu vois, je me disais, mais en fait, c'est daté comme principe. Et ouais, en fait, le truc fonctionne plutôt bien.
Bah ouais, la rétroprojection est très souvent utilisée par Cameron et tout. Hein. C'est un truc bien qui sûr, marche mais, du feu mais, des dieux quand c'est bien utilisé.
Mais bien sûr. Mais
là,
bon,
ça
après,
fonctionne en fait parce que t'as ces espèces de mouvements de gyrophare en fait, quelque part, tu vois, qui vient et qui te raccorde d'office en fait avec les images que t'as derrière.
Puis, y a une logique
et puis
de
c'est
ligne
très
droite,
sombre
en fait,
aussi. Ouais, il y a ça. Et puis c'est très sombre. Et puis de toute façon, ce train, le raccord entre le mouvement, la lumière et puis l'image qui est diffusée derrière, tu l'as presque d'office, j'ai envie de dire, quoi. Mais moi, je parlais surtout, encore une fois, du bus. C'est-à-dire que ce qui est aussi fascinant, c'est que tu vois toujours ce qui se passe derrière et le bus est toujours aussi dans le contexte et dans le contexte qui convient. Je veux dire, t'imagines le casse-tête que ça a été à tourner, quoi. Je veux dire, t'es dans un plateau qui est mouvant en permanence, quoi, où tu dois avoir toutes les voitures qui cernent, qui sont là avec des conducteurs cascades, etc. Tu dois les coordonner, tu dois mettre le bus, donc le plateau, toujours à l'arrière. Faut que la lumière soit raccord. Je veux dire, on n'est pas sur le tournage des Ondes de la Mer, mais c'est quand même un morcif, quoi, tu vois. Et c'est ça aussi, moi j'ai un vrai plaisir aussi là-dessus sur Speed, c'est que c'est aussi un plaisir de, quand t'aimes la technique au cinéma, que t'apprécies une belle image ou quelqu'un qui se fait suer à tourner quelque chose de propre et de joli, Speed, c'est un vrai plaisir en fait là-dessus, quoi. C'est-à-dire que Sandra Bullock, quand elle roule sur le tarmac en fait de l'aéroport de Los Angeles, tu vois en permanence des avions derrière bloquer un tarmac à Los Angeles pour tourner dessus avec une équipe de tournage qui va faire exploser le bus derrière.
Voilà, déjà il rentre dans l'aéroport, t'as un avion qui est en train de décoller, tu vois.
Ce plan, voilà. Il est vachement bien en plus parce que t'as plein de mouvements contradictoires. Vous verrez, déjà il y a une focale assez longue qui écrase les perspectives, donc t'as plein de choses qui se passent dans le plan et c'est vrai que c'est génial parce que le mouvement du plan contredit le mouvement du bus qui lui-même contredit le travelling en fait que fait la caméra avec, qui est accentué avec des petits poteaux qui sont au premier plan. J'adore ce plan, je l'ai revu, je dis ah, il est trop cool, quoi.
Et du coup en fait, si tu veux, même en fait en termes de trucs practical, on va dire, si tu veux, on avait fait l'émission sur Tenet où on s'était dit merde, tu vois, enfin je veux dire,
tu sens pas les choses,
tu sens pas que l'avion il est en train de défoncer un aéroport, tu vois, alors que là t'as le bus qui termine dans l'avion et l'explosion est juste incroyable, quoi,
avec une belle explosion années 90, c'est-à-dire qu'avec que du fuel, là on était encore près une journée en enfer, quoi, qui va changer tout ça, mais avec que du fuel, donc que des flammes en fait dans l'explosion,
et
une boule de feu, mais tu te dis mais c'est, laisse tomber, ça a dû faire une onde de chaleur mais hallucinante,
en tout cas l'effet cool, quoi, tu vois. Et puis enfin vraiment shooté sous tous les angles parce que il y a ça aussi, hein, comment dire, c'était multicaméra pour le coup, mais ça fonctionne très très bien, tu vois.
Bon, c'est pas gênant, ouais.
non mais en fait, non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 4-5 effets en fait, si tu veux, c'est pas que c'est du sans filet Speed, hein, c'est à dire mais tu sens en fait que c'est maîtrisé, et du coup en fait quand tu vois la multicam, il y en a 2-3 dans le film, tu te dis ah ouais, tiens là, il y a de la multicam, c'est vrai, tu vois. Alors que dans Derrière 3, tu vois, justement, par exemple, il n'y a pas de multicam, en fait, sur des moments-là. C'est genre, je filme l'explosion comme ça, tu vois. Et en fait, je sais que ça va avoir cet impact-là.
Oui, il y a un point de vue beaucoup plus fort. Voilà. Mais on n'est pas sur Derrière 3, on n'est pas du tout sur le même niveau. Ce n'est pas un film qui va révolutionner le truc.
Le discours à l'époque, c'était que Speed était bien meilleur. Hein.
C'est vrai.
Derrière 3, il y avait beaucoup de gens qui revenaient dessus. Hein.
Mais ce qui était... tu vois, c'est intéressant l'exemple de Tenet, parce que, évidemment, il y a eu beaucoup d'effets physiques, quoi, tu vois, je crois qu'il y avait 12 bus, tu vois, en tout, qui étaient truqués différemment, etc. C'est mes points un peu techniques. Fais chier, vous raccrochez tout de suite, vous le dites. Hein. Mais donc, il y avait 12 bus, tu vois, il y avait des bus truqués différemment, complètement vidés ou avec d'autres moteurs pour aller un peu plus vite et tout. Mais en même temps, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi, les années 90, on en a souvent parlé dans Stéroïdes, c'est aussi ce point de bascule, en fait, où le numérique est là, mais pas trop, et t'es encore un peu avec les maquettes et tout. Et ça fait partie des réussites de Speed et qui tiennent vraiment bien la route. Moi, la scène du bus, j'avais un peu peur de la voir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de numérique, en fait, dans cette séquence-là. Et elle tient super bien la route, en fait, qui est une scène qui mélange donc du physique. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait le saut du bus. Pour l'anecdote, ils l'ont raté le premier coup. Ils l'ont caché au studio. Ils l'ont pas dit au studio. Et du coup, tu vois les featurettes d'époque où le mec, ils disent, regardez, ils ont réussi du premier coup et tout. Après, on a appris des années plus tard qu'ils avaient planté un bus sur cette séquence-là et tout, mais c'était un saut très dangereux à faire pour le conducteur, le cascadeur, là, parce que ça peut te niquer le dos très facilement, en fait, ce genre de truc. Évidemment, les amortisseurs d'un bus, et ça, tu peux pas les truquer, en fait, ne sont pas du tout faits, en fait, pour ça. Et en fait, de matte painting numérique de Sony Pictures Imagework, qui était un peu le leader, en fait, là-dedans. Et ça passe, mais comme une lettre à la poste, hein. Aujourd'hui, c'est super beau, quoi. Et c'est pareil, tu vois, je trouve que on parlait d'intelligence de mise en scène, mais moi j'aime beaucoup le générique d'ouverture, en fait, qui installe un peu, te semble laborieux. Moi, c'est l'impression que ça m'avait donné, en fait. Et en fait, c'est un truc qui est laborieux. C'est le seul moment de mise en scène un peu laborieux. C'est un plan séquence qui descend la totalité, en fait, de la cage d'ascenseur, qui va, en fait, et tu sens, en fait, du coup, la distance parce que ça n'en finit pas, en fait. Ça n'arrête pas.
J'ai trois problèmes, on va dire.
Attends, je vais juste finir, Steph, là-dessus. Et donc, le truc qui est intéressant là-dessus, c'est que c'était un raccord avec une maquette infernal à tourner, enfin du coup le plan était hyper long parce que tu tournes en général les maquettes avec un temps d'exposition plus long pour avoir une profondeur de champ plus longue, parce que ce qui trahit les maquettes en général c'est une profondeur de champ très courte, et du coup c'était un plan qui était infernal à tourner parce que la maquette évidemment était très grande, et tu finis avec un raccord numérique sur le décor réel, et quand je l'ai revu je me suis dit putain c'est super propre quoi, ça passe. Il y a peu de films de cette époque là en fait dont les FX sont aussi bien vieilli. Qu'est-ce qui ne te va pas dans cette scène qui est très bien?
Le premier truc en fait de ce générique en fait, c'est que tu penses tout de suite à Die Hard. Enfin, tu peux pas t'empêcher, parce que pour moi en fait les voir les entrailles en fait d'un ascenseur, c'était dans Die Hard en fait, hein, à l'époque quoi.
Ouais.
Bon, même si certains citeront peut-être l'ascenseur de Dick Mas, tu vois, mais
j'avais pas pensé,
ça c'est le premier point où je me suis dit bon, pour un Die Hard like, tu vois, c'est un peu voilà. Mm. Le deuxième truc, c'est je trouve la police utilisée pour les titres absolument, mais
ouais, c'est pas beau,
horrible, tu vois.
Ça, pour le coup, c'est hyper daté.
Et c'est hyper daté, mais déjà à l'époque, hein, je trouvais les effets je trouvais que le tu sais, l'arrivée des chut, regarde, enfin, vu que ça s'appelle Speed, donc tu vois, ça arrive super vite à l'écran. Ouais,
le Speed, il s'arrête comme ça, et lui, il est en 3D, passe à travers la lettre. Mais moi, j'adore quand.
Et le troisième truc, c'est la musique de Mark Mancina que je trouve absolument infecte.
Oui, c'est vrai, elle est pas bien, mais moi, j'ai un attachement nostalgique, là, je peux pas être objectif en fait là-dessus.
Non, mais d'accord, mais bon, en tout cas,
elle est tellement rigolote cette musique.
C'est de la soupasse, tu vois, enfin, c'est de la soupe de. De tout ce qu'on va bouffer en fait dans les années qui vont suivre en fait,
parce que t'aimes pas la musique de The Rock toi peut-être.
Alors The Rock, j'aime bien deux thèmes, mais tu peux pas écouter. Mais c'est comme tout, hein.
Moi,
tu
je
vois,
l'écoute.
J'aime bien deux thèmes, mais tu peux pas écouter pour moi un album entier.
Tu préfères la musique de Commando, quoi. Oui, c'est vrai que c'est mieux.
Bah, la musique de Commando, c'est pas ce qu'a fait de mieux James Horner, hein, faut être honnête, tu vois. Mais après, c'est un truc.
Ça vaut pas 48 heures, quoi.
C'est un truc de veau. Ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est que. Enfin, alors. Je devrais pas dire ça à l'antenne, tu vois, parce qu'il y a des choses qui restent, tu vois. Ok. Tu vois. Mais Commando, je veux dire, en termes de cinéma, c'est un peu moins bien que Speed, normalement, tu vois. Alors, même si ce n'est qu'en termes de films d'action, qui, pour le coup, ne s'arrêtent jamais aussi, tu vois, ok, parce qu'il y a quand même un rapport, tu vois.
Ouais.
Bah, Commando, il était là avant, tu vois. Et ouais. En fait, en gros, voilà. Donc, c'est un truc de mais c'est un truc de bourrin total, et pour le coup, totalement affectif, Commando. C'est évident. Tu sais, je pense que tu montes Commando à quelqu'un qui a jamais vu Commando de sa vie, qui a jamais vu un film avec Schwarzenegger. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui ils disent ah c'est bien c'est bien ton film, il est bien, tu vois,
au mieux ça va le faire rigoler.
T'as pas 8 ans quand t'as vu Commando, c'est que t'as raté ta vie. Mais c'est tout, quoi. Faut le montrer à vos enfants de 8 ans Commando, c'est mais voilà. Mais le truc avec, pour revenir sur Speed, c'est que c'est dommage en fait qu'il y ait pas un vrai score en fait derrière. Alors, pas forcément un John Williams ou un comment dire,
moi je trouve que ça fait partie du standing du film aussi,
un Jerry Goldsmith, hein.
Ouais.
Mais à la pour prendre des scores de la même époque, moi il y a un score par exemple que j'aime beaucoup, que le film ne mérite pas tant, tu vois, qui est le score de Debney sur Mort Subite, qui est super efficace, super bien foutu, super dynamique. Et en fait, un score comme ça sur Speed, moi j'aurais pris, quoi.
C'est vrai.
Et disons que bon, ben tu vois, je sais qu'il y a pas
j'ai
mal...
pris le whole package, moi, si tu veux, Steph, quand j'ai vu le film, et je suis resté avec la musique de Mort Subite.
Je sais pas combien de temps sur le podcast, donc on parle des choses aussi qui gênent un peu.
Et puis je l'écoute de temps en temps, j'avoue.
Alors moi, j'écoute pas la musique de Speed.
C'est encore plus honteux.
À une époque, j'avais essayé pour faire un autre film qui a un rapport quand même assez proche à Speed, qui était Broken Arrow.
Ouais.
Je me rappelle que je m'étais dit, tiens, je vais me refaire la BO de Broken Arrow. Tu vois. Donc,
je l'aimais bien, moi, à l'époque.
La BO de Broken Arrow, c'est insupportable. Tu peux pas l'écouter en entier, quoi. Voilà. Bref, donc ouais, non, mais toute cette école musicale là, c'est un gros problème pour le cinéma d'action, à mon sens. Et Speed, c'était un des premiers trucs, parce que
cette idée générique est sympa.
T'entends ça.
J'aime bien cette idée.
Éventuellement, mais tu vois, t'entends
pas du tout, elle est sympa.
Tellement que ça, quoi. Non, mais j'aimerais revenir sur un truc qui est quand même assez, je trouve, réussi dans le film.
Dépêche-toi, j'ai envie de faire pipi. Il y aura pas de voix caca. Il y aura pas de pipi, j'ai très très envie.
Moi, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, la relation entre Keanu Reeves et Sandra Bullock.
Oui, alors tu voulais revenir là-dessus.
Parce qu'en fait, il y a quelque chose parlais. De, finalement.
Tu devais être Stephen Baldwin en plus. Est-ce que ça aurait moins fonctionné?
À la place de Sandra Bullock.
Stephen Baldwin à la place de Keanu Reeves et Hélène Degeneres à la place de Sandra Bullock. Putain, on a échappé
mais
à
ça.
Du
c'est ce que je disais. En fait, c'est un jeu de chaise musicale ce film parce qu'on a parlé de McTiernan, mais il y a aussi le film a été proposé à Quentin Tarantino.
Après, c'est vrai.
Et en fait, Quentin Tarantino disait mais qu'est-ce que vous voulez que je foute de ce film? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec
d'accord,
ça?
D'accord, ok.
Mais c'est un des films qui lui a été. Bah, comme tu vois, je pense quand t'étais la hot shit en fait à Hollywood à ce moment-là, en fait, on proposait un peu tout ce qu'il y avait, ce qui passait sous la main, quoi.
Et oui, alors tous les deux. En fait, déjà, tu sens que elle le kiffe.
Ah, mais les deux, ils se kiffent.
Ils se kiffent, ouais, je pense.
Je pense qu'ils se kiffaient. Et d'ailleurs, ils l'ont plus ou moins avoué 25 ans après.
Qu'ils étaient ensemble ?
Non. En fait, qu'ils se kiffaient.
Qu'ils se kiffaient
tous
les deux.
Et je pense, heureusement qu'ils n'ont rien fait parce que tu sens qu'il y a un truc de tension sexuelle, en fait, qui est littéralement explicite dans le film, d'ailleurs, parce que.
Mais qui est pas.
Parce qu'elle le dit, en fait. Elle a cette phrase, en fait.
Qui est pas érotique ni grave.
Non, pas du tout.
Mais qui a un truc, c'est vrai, hein, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et mais presque c'est de l'ordre de l'émotion en fait. Tu sais pas, il y a un truc
déjà,
ça, je suis d'accord.
C'est dans les détails. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, des petites conneries du genre il l'appelle madame et l'autre il fait tu m'appelles pas madame, tu m'appelles son prénom. Que tu
sens ça, c'est
ton
Sweden, ça.
Ouais, non, peut-être, mais tu vois, enfin je veux dire, tu peux pas se rater tout le temps sur chaque phrase, hein, non plus, tu vois. Voilà, tu vois.
C'est plus dans les gestes, en fait.
Les gestes.
Il y a des petits trucs, en fait, quand il s'approche d'elle, quand il. Je sais pas, c'est vrai, hein.
On a l'impression
de parler d'un film de Christophe Honoré. Mais c'est vrai qu'il y a un truc comme ça, je suis d'accord avec toi.
Parce que je pense qu'ils l'ont travaillé. En fait, c'est-à-dire que je pense qu'ils l'ont vraiment travaillé sur le plateau, ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le référent, en fait, le personnage d'Annie. C'est-à-dire, c'est le référent pour le spectateur.
C'est clair.
En fait, quand Keanu Reeves arrive avec la machine pour passer sous le bus, tu sais pas ce qu'il est en train de faire. On t'a pas expliqué ce qu'il va faire. On t'a pas montré qu'il est parti avec les gars faire ça, etc. Il revient. Et la meuf, elle fait, mais qu'est-ce qu'il fout? Et en fait, le truc, si tu veux, c'est qu'il passe sous le bus.
C'est,
et
pareil, c'est un truc dont on n'a pas parlé parce que
il juste un regard à ce moment-là, en fait, de Keanu Reeves, en fait, pour lui dire je te fais confiance. Tu vois, et elle fait mais pourquoi tu me fais confiance?
Et ça marche.
Et ça marche, en fait. Et c'est des trucs. Et ça, c'est pas Joss Whedon. Donc non, mais en fait, c'est des détails comme ça.
Mais tu vois, c'est marrant
parce que j'ai même pas besoin de la phrase où elle dit, tu sais, les relations qui commencent
trop fortes, qui marchent pas. Mais tu vois, c'est marrant parce que tu parlais aussi de cette scène et tout. Et tu sais, on a parlé tout à l'heure, en fait, du moment où il a son truc de faiblesse. De la même façon, je trouve que ce moment où il surgit au cul de ce véhicule et où tu te dis va aller là, tout à coup le mec il a à nouveau cette aura de héros d'action assez inaccessible. Ce choc fonctionne bien. C'est vrai qu'il y a des moments presque de grâce, on a envie de dire, dans ce film. Alors que c'est pas trop adapté à ça, mais des trucs où tu dis putain, mais ça marche du feu de Dieu, quoi. Et ce truc, effectivement, où il arrive tout à coup, il surgit du truc, il a disparu, en fait, du bus, alors qu'il était tout le temps avec eux. Il était avec ce costume-là, en fait, de tous les jours, on va dire, quoi. Et tout à coup, il surgit avec ce costume-là, avec ce truc, où il va aller avec cette machine-là, et tout à coup, paf, c'est le héros d'action. Et c'est un choc qui fonctionne super bien. C'est-à-dire que, oui, tu l'as compris, tu l'as trouvé presque trop faible pour que tu puisses t'identifier à lui en tant que héros d'action, et tout à coup il ressurgit comme ça, et ce jeu de va-et-vient fonctionne vraiment du feu de Dieu.
Ouais, puis en fait c'est aussi cette idée que, en fait, Speed, le
premier... Ah, j'ai envie de le revoir.
Attends, bah, alors tu l'as revu en plus là. Moi je l'ai revu juste avant qu'on enregistre, mais en fait le truc avec Speed, c'est que rien ne devrait marcher quand tu réfléchis. Ça ne devrait pas marcher, c'est un film qui ne devrait pas marcher. C'est-à-dire qu'en fait, si tu regardes ce qu'il y a sur le papier, si tu regardes sur tous ces trucs-là, le spectateur devrait se dire, à un moment donné, avoir le recul de se dire, il est complètement con ce film. Ça marche pas, tu vois. Et en fait, parce qu'en fait le truc, si tu veux, non, je suis pas dur, c'est je parle du concept, hein. Je parle vraiment d'un truc où tu te dis ça devrait pas marcher. Et d'ailleurs, le truc avec quand Graham Yost a essayé justement de réitérer certaines idées dans Broken Arrow, ça ne marche pas. Tu vois, il y a trop de pognon, il y a trop de, tu vois, voilà, c'est un réalisateur qui fonctionne à l'émotion à la base, John Woo, donc il peut pas être dans il a cette efficacité, hein.
Ouais, je veux bien faire un Broken Arrow avec toi, parce qu'il faudrait que je le revoie, j'avais bien
écoute,
aimé
Broken Arrow, moi le seul truc que j'accorderais au film, si tu veux vraiment, c'est que je trouvais ça hyper injuste, en fait, à l'époque, qu'on le compare à Piège à grande vitesse, qui était pour le coup un vrai nanar, tu vois. Maintenant, c'est un film qui est assez mal foutu, parce qu'il y a des gros, pour le coup, les qualités d'écriture des personnages, on va dire, si tu veux, en tout cas le relationnel
est très sobre dedans, il est pas mal.
Et il fonctionne pas du tout dans Broken Arrow. Il y a eu l'idée que j'aime bien, moi, dans Broken Arrow.
Non, mais on n'est pas là pour parler de Broken Arrow, on en parle.
En fait, ils se connaissent pas, les persos, et ils se donnent leur nom à la fin. C'est le seul truc que j'avais trouvé cute, tu vois, dans leur fonctionnement.
On fera pas un Broken Arrow,
mais
Speed et Broken Arrow en un seul stéréotype,
on pourra le faire. Mais en fait, il y avait cette idée là que tout bêtement, en fait, si tu veux, le relationnel émotionnel, en fait, entre ces deux personnages là qui sont le référent pour le spectateur, fonctionne que tu peux dire que c'est une histoire d'amour sans que ce soit une histoire d'amour en fait dans le film, que tu la comprends totalement parce qu'en fait tout est dans encore une fois entre les lignes. C'est-à-dire que en gros c'est la subtilité, si tant est qu'il y ait une subtilité dans Speed, du truc pour moi. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment.
Mais j'irais même jusqu'à dire, alors tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais dans la scène de métro à la fin, faite en grande partie d'ailleurs aussi avec des maquettes.
Il la quitte pas.
Qui faite avec des maquettes d'ailleurs qui sont pareil, hein, ça tient plutôt bien la route, c'est assez joli quoi. Mais moi le fait par exemple qu'il la quitte pas et qu'ils restent tous les deux, et tout à coup t'as un moment aussi pareil de assez assez dramatique, assez pesant, où tu dis bon bah ils vont mourir ensemble, mais en même temps c'est pas grave, ils meurent ensemble. Et je sais pas, il y a un truc qui se joue qui est assez inattendu. C'est incroyable que effectivement ni Graham Yost ni Ian DeBoot n'auront jamais réussi dans leur carrière ensuite à retrouver ce genre de truc quoi.
De petits moments.
C'est assez étonnant, mais je pense qu'il y a aussi un truc dans Speed, c'est que même s'il y a des grands professionnels, même s'il y a une bonne idée de base et tout, il y a quand même un truc où les planètes s'alignent. C'est-à-dire que effectivement avec Hélène DeGeneres et Stephen Baldwin, cette scène dans le métro, je suis pas sûr qu'elle aurait fonctionné.
Il fallait que les deux persos s'aiment en fait sur le plateau.
Il fallait qu'ils aient aussi quelque part aussi. Alors j'aime pas forcément ce terme, mais je trouve qu'il s'adapte bien, cette fraîcheur. Sandra Bullock, c'est ça aussi dans Demolition Man. Elle devrait être. Enfin, elle a un côté d'ailleurs insupportable. Moi, je trouve que certains trucs étaient agaçants.
Alors que là, elle est pas.
Mais elle a un truc pétillant en fait. Elle est, je sais pas. Il y a un truc, elle est vivante quoi. Et bon, elle est un peu chiante quand même des fois. Mais en majeure partie du temps, elle est hyper.
Moi, je trouve dans le film, elle emporte le meilleur rôle. Hein.
Elle est agréable quoi en fait, parce qu'elle est voilà, elle a beaucoup de vie en fait. Je sais pas. Il y a un truc en elle qui fait que et les deux, c'est vrai qu'il y a une alchimie, il y a quelque chose qui fonctionne.
Pas. En fait, c'est absolument pas étonnant qu'elle soit devenue une star avec ce film. En fait, c'est le truc. C'est d'ailleurs une star pareil, encore une fois inattendue, parce que la personne qui a vraiment profité du succès de Speed, objectivement, c'est Sandra Bullock. D'ailleurs,
et Yann DeBont quand même. Aussi.
Alors Yann DeBont derrière, mais Yann DeBont il a planté sa carrière, tu vois, de réel.
Ouais, il a fait Twister derrière. Donc Sandra Bullock, qu'on fasse un stéroïde sur Twister.
Ouais.
Ah, c'est de la merde.
Sûr, je préfère faire Broken Arrow. Mais le truc, en fait, si tu veux, c'est que c'est surtout que Sandra Bullock, elle est restée une star pendant 25 ans derrière, tu vois. Et vraiment, en fait, c'est-à-dire que tu veux, elle a fait plein de films de merde, tu vois.
C'est clair. Hein.
Mais en fait, c'est une vraie star de comédie romantique. Elle a supplanté à l'époque Julia Roberts, tu vois, totalement dans le truc, tu vois. Je veux dire, c'était non, elle a voilà. Enfin après, encore une fois, je veux dire, et je pense qu'en fait, si tu veux, ça tient à Speed et au fait que le public l'aimait vraiment dans ce film, en fait. C'est-à-dire que parce que c'était leur point d'attachement. Quoi.
Qui a des belles jambes.
J'aime bien Jeff Daniels, moi, dans le film.
Ah, il est super.
Mais parce que Jeff Daniels.
Mais lui, il est toujours bien, Jeff Daniels. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Jeff Daniels. Putain, il va jamais finir cet épisode. On a combien là, alors
on est à peu près à 55 minutes. 2 heures, ouais.
Non, mais Jeff Daniels, putain, faut qu'on en parle.
Mais encore une fois, dans la logique de un regard, très vite, tu vois.
Juste avant qu'il meure. Elle est géniale. On a un ami qu'on peut citer, la Gabrielle Rolin. Il l'imite très bien parce qu'il a, quand même une tête particulière, Jeff Daniels, et il est coincé dans ce casque. Et c'est vrai que ça lui fait une tronche pas possible. Et c'est pas forcément le moment où t'as envie de sourire, mais moi je peux pas m'empêcher de sourire. Mais il y a un truc sur Jeff Daniels, c'est que il te le vend pas en héros d'action, ça c'est sûr et certain, ça marche pas. Mais par contre, dans le côté la tête et les jambes, ça marche par contre. Et il y a un truc, c'est que il fait partie aussi de cette race d'acteurs qui est immédiatement hyper sympathique, Jeff Daniels. C'est pareil, il a un truc en lui où tu te dis, mais ce mec, mais il est trop gentil. Alors ça se trouve, c'est la pire ordure de la vie. Il trie pas ses ordures, des trucs. il nettoie pas la cuvette des chiottes après avoir lâché un gros truc. Voilà, ça c'est pas le point caca. Mais par contre, il est. Mais je sais pas, il a un truc en lui qui est hyper sympa et qui fonctionne très bien.
Et surtout, en fait, c'est quand même un truc où c'est quand même le témoignage d'être un grand acteur, tu vois, vraiment, et discret, tu vois, parce que c'est pas quelqu'un qui surjoue, en fait, si tu veux, ces trucs, quoi, tu vois, il a toujours été très juste. Et très sobre, que ce soit dans Speed, dans The Newsroom par exemple, dans Dangereux sous ton rapport, ou Dumb and Dumber qui est sorti même année.
Exactement, il fallait le citer.
Et pour moi, je dis Dumb and Dumber parce que c'est un exploit d'arriver à égaler Jim Carrey à ce moment-là de sa carrière.
Enfin, on n'est pas là pour en parler, c'est vrai, mais le mec, c'est vrai que le mec arrive à tenir tête à Jim Carrey dans un film comme ça, à cette époque-là de Jim Carrey, quoi.
Et que tu te rappelles de lui.
Et tu te rappelles de lui, il fonctionne, le duo arrive à fonctionner, c'est trop fort.
Le personnage ne te pose pas de problème, en fait, si tu veux, de Dumb and Dumber ne te pose pas de problème quand tu regardes Speed ou n'importe quoi d'autre. C'est très, très fort. Est-ce qu'on termine sur Jeff Daniels? Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? moi j'ai quand même une petite question pour toi, parce que c'est une question qu'en fait que je me suis toujours posée.
Vas-y, dis-moi.
En fait, vis-à-vis de comment dire de Speed.
Oui, vas-y.
C'est un film qui va tellement qui est tellement presque naturel parfois, tu vois, dans sa façon de présenter les choses, que tu te demandes s'il y a pas mal de petits accidents heureux.
Oui, oui, c'est ce qu'on s'est dit.
Il y a un plan dans le film qui m'a toujours un peu, je me suis toujours dit, mais est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est un accident heureux, ils l'ont gardé. C'est le butt shot au début. Tu sais, il y a une nana qui se fait embarquer dans l'ascenseur, là, tu sais, qu'on sort, tu vois, qu'on évacue.
Et elle a un string.
Et un tout petit plan culotte. Et en fait, mais suffisamment visible pour que tu te dis, tiens.
Ça réveille.
Et tu repars dans le reste du film. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que je me suis dit, attends, ce cul, il est trop beau. Tu vois, pour qu'en fait, ça
non,
soit.
Non,
ça
je
soit
pense que c'est pas du tout un accident.
Et en même temps, ça a l'air d'en être un.
Mais non, mais je pense que c'est pas un accident. Et je pense que c'est d'autant moins un accident qu'on connaît tous les trucs de contrat américains. Elle, en l'occurrence, c'est une comédienne.
Bien
donc
sûr.
Elle a un contrat de comédienne. Ce n'est pas une simple figurante.
T'es en train de me
casser
mon trip.
Et non, mais c'est pas un accident du tout, je pense, Steph. Moi, j'y ai réfléchi aussi à ce butt shot. Mais je me suis dit.
Un peu choqué, là.
Mais non, mais je me suis allumé une bonne pipe, comme ça. Et j'ai dit, réfléchis. Qui soit à ce bad shot.
mais
c'est
faut
pas possible.
Il est marquant ce plan.
Non
quoi.
Mais bien sûr. Mais en fait, pourquoi il est marquant? En fait, je pense qu'il y a un truc. Tu parlais de cerveau reptilien, c'est-à-dire que le truc, c'est que toi, en tant que mâle. Alors bon, je parle en tant que mâle hétéro. Hein, je suis désolé, mais c'est comme je ne vais pas me refaire.
C'est
mais
totalement
en tant que mâle hétéro,
gaze, hein, ce plan.
Dans le si tu veux, dans le comment dire, dans les jets de où vais-je aller? Non mais dans les
faut faire attention avec toi quand on parle de fesses.
Non mais en fait ça provoque des trucs physiques en toi, un film d'action quoi, oui. Tu vois. Et je pense que tout à coup avoir ce truc là d'excitation, ça fonctionne. Et il y a un autre truc aussi, c'est que je pense que, enfin moi c'est aussi comme ça que je l'ai vu en fumant ma bonne pipe là. C'est que je pense aussi que ça te montre le. C'est comme quelqu'un qui se fait pipi dessus quand il a peur dans un film, tu vois, parce qu'il est pris en joue, un truc comme ça. C'est que ils te sont présentés ces personnages-là comme très élégants, ils sont en tailleur, etc. À partir du moment où la meuf, il y a ça, tu sens qu'ils sont dans cette urgence et qu'ils ont plus le choix, en fait. Ils se lâchent, ils se retrouvent dans le truc. Donc, c'est un truc de personnage aussi, ce butt shot, quoi, quelque part.
Ouais, bah oui, après, moi c'est surtout l'immédiateté du plan, en fait, qui m'a toujours surpris, parce qu'en fait, je l'ai toujours.
C'est très court,
c'est
effectivement,
très court.
Mais tu lis tout de suite.
Tu vois pas vraiment les fesses de la nana, mais en fait, c'est un truc.
Suffisamment
de...
pour.
Non,
voir
mais suffisamment
à peu près
pour comprendre, et surtout te dire, avant, c'est un accident dans le moment, puisqu'en fait, ils sont en train de l'évacuer et tout. Mais est-ce que c'est un accident dans le film? Et vraiment, en fait, c'est
cette
idée.
Je pense pas
effectivement non plus.
Parce que ça.
Et c'est ce que tout le monde me dit.
Toujours
en fait,
je pose souvent
la question aux gens quand on parle de suite, parce que c'est vrai que je trouve que ça fait partie des trucs. Alors, il se trouve, c'est trivial parce que c'est une paire de fesses, mais ce que je veux dire, en fait, si tu veux, c'est que je trouve ça hyper, c'est assez démonstratif de ce qu'est le film, en fait, quelque part, si tu veux, ce plan. Et je pense que c'est pour ça qu'il marque un peu, tu vois. Au-delà de la beauté de, comment dire, physique, tu vois.
Le butt shot de Speed. Accident ou pas accident, ouais. Dites-nous ce que vous en pensez sur
dans
tous nos réseaux sociaux, dans les commentaires, sur Facebook, Twitter, bon, Instagram et pas TikTok.
Je pense qu'on peut dire que depuis, 25 ans que ce film est sorti...
La question aura été tranchée.
Voilà, c'est plutôt pas mal, on peut le recommander.
Mais bien
ça
sûr,
très,
ah oui,
bien.
À ce niveau-là, ah, ouais. Bah, bien sûr, non, ouais. Ah ouais, vraiment. Moi, j'ai toujours un peu peur quand je revois Speed.
Bah, tu
régulièrement.
Penses que ça va plus marcher.
C'est clair.
Mais parce que c'est un film fragile.
Mais
attends,
oui.
Non, mais
c'est clair.
Part,
parce que je me dis, ouais.
C'est ce que je dis, ça devrait pas marcher.
Daté.
En fait.
Par exemple, moi, j'avais vachement peur des effets numériques. Je me suis dit, putain, ça fait plus. Ça devait faire pas loin d'une quinzaine d'années hein, que j'avais pas vu. Peut-être une dizaine, 10-15 ans et tout. Et t'as peur, en fait, de ça. Et puis ton rapport aux acteurs évolue, tu vois, aujourd'hui.
Mais ça fait partie. Moi,
mais en fait, non, c'est un film qui, je trouve, moi, c'est peut-être le truc qui m'a le plus surpris, et je terminerai peut-être là-dessus personnellement, c'est que le film bouge pas beaucoup, en fait.
Non.
Il a pas beaucoup bougé. Et ça, c'était pas gagné quand je sortais de la salle en
94. Août 94.
Août 94. Autour du 20.
Je crois 24 août.
Et j'allais dire 24 août. Putain, ouais. J'allais faire un Stéphane.
Mais faudra vérifier, quoi. Je suis pas tout à fait sûr. Mais en gros, oui, moi je suis d'accord avec toi. Et surtout, il y a cette idée quand même que souvent, en fait, des réals qui ont bien merdé derrière dans leur carrière,
ouais.
En général, t'as pas trop envie de revenir, en fait, sur le film que t'as bien apprécié parce que tu te dis merde, tu vois, ça se trouve.
Là,
en fait,
on a beau avoir vu Antise plusieurs fois, ouais. En ce qui me concerne.
Non, mais c'est comme.
J'aime encore ce
film. Tu vois, j'aime pas trop le cinéma de Soderbergh, par exemple, mais Out of Sight, Hors d'atteinte, c'est un film que je pourrais voir mais des tonnes et des tonnes
et
de fois.
Et ça vieillit pas aussi.
Et Speed, mine de rien, c'est dans cette catégorie aussi, quoi. Voilà. Merci Julien.
Mais merci Stéphane, écoute, voyons.
Voilà, merci Alain, merci à la technique.
Merci
voilà,
Alain.
Qui nous écoute.
En faisant des Candy Crush, quand on fait des longs podcasts comme ça.
Moi, je pense qu'il poste.
Non.
Sur les commentaires.
Quand on fait des longs podcasts comme ça, là, c'est comme Waterworld et tout, il en a. Et au bout d'un moment, il en a ras-le-bol. En fait, alors vous nous écoutez en train de passer le balai et la nénette, un coup de nénette dans votre cuisine, parce que bon, vous avez fait des crêpes et vous en avez fait tomber par terre. Je pense qu'il y a un truc comme ça et tout. Mais lui, il fait, au bout d'un moment, c'est pareil, il nous écoute en faisant un petit coup de Candy Crush. T'en es à quel niveau de Candy Crush, Alain ?
Level 323. Non, le truc, c'est qu'il fait pas ça, il répond aux commentaires sur Capture Mag. Non, sur YouTube, en fait. Quand les gens disent de la merde, ils disent ah, Julien Dupuis, sale gauchiste et tout,
ouais,
il répond,
c'est
tu
vrai.
Vois. Donc c'est tout.
Il y a des gens
disent,
qui
bah,
disent
non,
ça.
Je
vais passer sur YouTube les commentaires, ouais. Il faut que j'y aille plus. Ouais.
Bref, donc vous avez compris que vous pouvez nous écouter un peu partout, hein, ouais. Notamment, vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, quoi, mais notamment donc, sur Acast, sur YouTube, sur Spotify, sur tout
vous
ça.
Vous pouvez nous interpeller, sur YouTube j'y vais pas assez, j'irai plus, mais si vous nous interpellez,
tous vos commentaires nous intéressent, sauf quand vous êtes pas d'accord avec nous.
Ouais, voilà. C'est ça. mais dites-nous votre avis sur le Buttshot quand même.
Ouais, voilà, c'est vrai. Est-ce que vous pensez, accident ou pas?
Voilà, c'est ça.
Est-ce que ça vous a marqué déjà, ou est-ce qu'on est des beaux hétéros
Est-ce qu'on est obsédé par les culs? C'est une possibilité. On le reconnaît.
Donc on attend vos commentaires et d'ici là on se dit à la prochaine avec un bon film, un autre bon film.
J'espère.
Hein. Espérons.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with Host Red sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book Host Red sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
LAPD, LAPD.